Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, très content de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous en compagnie de Georges Léonard Sagneux en ce mercredi 16 juillet 2014. Bonjour Georges.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Ce qui retient l'attention ce matin, d'abord cette explosion qui a fait plusieurs victimes dans la capitale burkinabé.
Les causes n'étaient pas encore connues, mais le communiqué précise que le procureur du Faso a ouvert une enquête.
Autre titre, le dialogue intermalien s'ouvre aujourd'hui en Algérie. Un membre présumé de Boko Haram extradé du Soudan vers le Nigeria. Israël bombarde les domiciles de plusieurs membres du Hamas. Et dans la partie magazine, la ville congolaise de Goma réclame plus d'eau.
Il n'y a pas de l'eau dans tout Goma. Si tu tournes ton regard vers la plage du peuple, tu vas voir comment tout le monde est là en train de puiser de l'eau. Les enfants souffrent. Tout le monde vient ici. Nous n'avons pas de l'eau.
Ne manquez pas non plus en fin de programme les sports et la musique.
Au Burkina Faso, une explosion s'est produite dans la soirée d'hier à Ouagadougou, la capitale. Le gouvernement fait état de plusieurs victimes. Issiagaba.
La déflagration survenue dans le quartier Larlé a soufflé plusieurs habitations, laissant un gros cratère béant, selon les mots même du service d'information du gouvernement burkinabé, dans un communiqué diffusé aujourd'hui. Plusieurs personnes ont été tuées. Le nombre était inconnu hier soir, alors qu'une quarantaine d'autres ont été blessées. Bilan encore provisoire. L'explosion a aussi causé d'importants dégâts matériels. Les causes n'étaient pas encore connues, mais le communiqué précise que le procureur du Faso a ouvert une enquête. Le ministre de l'administration territoriale, le maire de Ouaga et les forces de défense et de sécurité se sont mobilisés peu après la catastrophe, écrit le service d'information, afin de venir en aide aux sinistrés.
Le dialogue intermalien s'ouvre aujourd'hui à Alger en vue de trouver un accord de paix entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord Mali, région où la situation demeure très tendue au vu des derniers affrontements en date, mais signe de bonne volonté hier entre les belligérants Clermont-Ringibourg avec un échange de prisonniers.
45 soldats et policiers maliens capturés fin mai à Kidal par les groupes armés sont arrivés hier par vol spécial à Bamako, où ils ont été accueillis par le Premier ministre Moussa Mara. Dans le même temps, hier, 41 Touaregs capturés lors des patrouilles des forces de sécurité ont été remis en liberté. Les négociations d'Alger sont les premières à rassembler l'ensemble des parties depuis l'accord préliminaire conclu à Ouagadougou le 18 juin 2013. Un consensus doit être trouvé entre les mouvements rebelles qui veulent une plus grande autonomie du Nord malien et Bamako qui dit que tout est négociable, sauf la laïcité et l'intégrité du territoire malien.
J'ajoute que des observateurs se montrent plutôt sceptiques quant à l'issue de ces pourparlers intermaliens, mais la mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel a appelé le gouvernement et les représentants des groupes armés à faire preuve de bonne volonté.
Les services de sécurité nigérians ont annoncé hier qu'un membre présumé du groupe islamiste armé Boko Haram, Aminu Sadiq Ogbuche, recherché pour son rôle dans les attentats à la bombe des 14 avril et 1er mai dans l'agglomération d'Abuja, avait été extradé du Soudan vers le Nigeria. Ces deux attentats ont fait 94 morts. Sadiq Ogbuche, qui est un déserteur de l'armée nigériane, a été arrêté par Interpol au Soudan sur la foi d'un mandat d'arrêt du Nigeria.
Pendant ce temps, Georges, une rencontre prévue hier entre le président nigérian Goodluck Jonathan et des proches des jeunes filles enlevées par Boko Haram a été annulée à la dernière minute. Un porte-parole du chef de l'État a critiqué les militants du mouvement Bring Back Our Girls, ramenez nos filles, déclarant qu'il se servait du sort de ses otages pour faire de la politique. Doyin Okupe a accusé le mouvement de soutenir les dirigeants de l'opposition en vue de déloger le président Jonathan aux élections de 2015. Une responsable de la campagne a déclaré à la VOA que ce sont les familles elles-mêmes qui avaient décidé d'annuler le rendez-vous, offusquées par le fait que le président avait finalement décidé de les rencontrer uniquement après l'intervention de la jeune militante pakistanaise Malala.
Sachez aussi, Jacques, également que le gouverneur de l'État d'Adamawa, l'une des régions nigérianes où sévit Boko Haram a été démis de ses fonctions hier après des accusations de corruption. Murtala Nyako nie les allégations. Son parti s'est engagé à contester la décision encore. Encore Jacques, nous restons dans la région pour vous annoncer que le président français François Hollande effectue à partir de demain jusqu'à samedi une tournée dans 3 pays africains. L'opération Serval au Mali doit être remplacée par l'opération Barkhane qui couvrira les 5 pays de la zone sahélo-saharienne. Jean-Roger Bion.
Le président français François Hollande commence sa tournée par la Côte d'Ivoire, puis il se rendra au Niger et au Tchad. Le voyage en Côte d'Ivoire était prévu de longue date. Le Niger est un maillon important du dispositif militaire français et le Tchad devrait abriter l'état-major de la future opération Barkhane qui va succéder à Serval au Mali. Cette force mobilisera 3000 hommes pour lutter contre le terrorisme en coopération avec 5 pays de la zone, notamment la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le commandement des forces déployées à Gao, Niamey et N'Djamena sera centralisé au Tchad, ce qui devrait permettre à l'aviation française de s'occuper à la fois de la bande sahélo-saharienne et de l'Afrique centrale, notamment de la Centrafrique. Des bases satellites devraient voir le jour à Tessalit, dans le nord du Mali, à Béché et Fayalajo, dans l'est et le nord du Tchad. Elles permettront de surveiller les régions poreuses près des frontières avec la Libye et l'Algérie.
Plus de 3000 djihadistes marocains ou d'origine marocaine, dont des responsables de l'État islamique, combattent en Irak et en Syrie. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre marocain de l'Intérieur, Mohamed Assad, qui parle de sérieuses menaces terroristes contre le royaume. Bagassi Koura.
Selon le ministre Mohamed Hassad, qui répondait aux questions des parlementaires, plus de 1100 Marocains sont affiliés à des organisations terroristes en Irak et en Syrie, aux côtés d'autres ressortissants européens d'origine marocaine, dont le nombre est estimé à 2000. Parmi ces Marocains, selon le ministre, 5 exercent des responsabilités au sein de l'État islamique. Selon M. Hassad, 128 Marocains ont déjà fait l'objet d'enquêtes à leur retour dans le royaume et c'est la première fois qu'un haut responsable fournit des chiffres aussi précis. Le gouvernement marocain a annoncé le 10 juin un renforcement des mesures de sécurité face à ce qu'il qualifie de sérieuses menaces terroristes. En Syrie, des experts estiment que plus de 400 Marocains ont été tués depuis le début de l'insurrection contre le régime de Bachar al-Assad en 2011.
Retour au Burkina Faso avec cette perturbation prévue dans les médias publics aujourd'hui. Le Synatic, le syndicat des travailleurs de l'information et de la culture, a invité les travailleurs des médias publics à observer une grève de 24 heures pour exiger des autorités la satisfaction de leurs revendications. Sidiki Dramé, le secrétaire général adjoint du Synatic.
Les travailleurs des médias ont décidé donc d'attirer l'attention des autorités sur leurs conditions de vie et de travail qui ne sont pas du tout des meilleures, alors qu'on demande aux hommes des médias de faire le maximum pour que la démocratie puisse s'enraciner au Burkina. Donc, le 16 juillet 2013, pour la première fois, les travailleurs des médias ont pu prendre la rue et manifester leur mécontentement, poser les problèmes cruciaux aux responsables du ministère de la Communication et du gouvernement. Mais jusqu'à à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu une solution aux différentes préoccupations qui se résument à l'élaboration d'un statut particulier pour les travailleurs des médias publics, ce qui va permettre d'améliorer conséquemment leurs conditions de vie et de travail sur le plan salarial, indemnitaire et sur le plan d'une sorte de résolution globale de tous les problèmes qu'ils connaissent au niveau de leurs conditions de vie et de travail.
Vous écoutiez Sidiki Dramé, secrétaire général du Synatic, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'étranger, Israël a bombardé dans la nuit de mardi à mercredi les domiciles de plusieurs responsables du Hamas dans la bande de Gaza, conformément à sa promesse d'intensifier ses raids après le rejet d'une trêve par le mouvement islamiste. Le conflit semble sans issue malgré la mort de plus de 200 Palestiniens et pour la première fois d'un Israélien. Une solution diplomatique aurait été meilleure, mais le Hamas ne nous a pas laissé d'autre choix, a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
En Irak, les députés irakiens, Jacques, ont finalement élu hier le chef du Parlement, ouvrant la voie à la formation d'un nouveau gouvernement considéré comme crucial pour faire face à l'offensive djihadiste qui menace le pays de partition. Il s'agit de Salim al-Jubouri, un membre de la communauté chiite d'Irak. Le vice-président américain Joe Biden l'a appelé pour le féliciter en promettant qu'il travaillerait en étroite collaboration avec lui.
En Ukraine, des frappes aériennes menées dans l'est du pays ont détruit hier un immeuble à logement dans la ville rebelle de Chnidzne. Au moins 11 personnes ont été tuées, ce qui fait ainsi augmenter le bilan des civils morts dans les combats entre forces gouvernementales et insurgés pro-russes. Les rebelles ont imputé l'attaque aux forces aériennes ukrainiennes. Le gouvernement a rapidement nié sa responsabilité.
Et puis Jacques, alors une découverte en Chine d'une nouvelle espèce de dinosaure probablement capable de voler, un dinosaure dont les pattes et la queue étaient entièrement recouverts de longues plumes. Sa découverte renforce la théorie selon laquelle le vol existait déjà avant l'apparition des oiseaux. Ce reptile baptisé Chanuraptor Yangi, vieux de 125 millions d'années, avait vraisemblablement l'allure d'un gros poulet doté de dents.
Oui, un gros poulet doté de dents. Je ne crois pas qu'on aurait pu le manger, nous en tout cas, Georges. Il nous aurait bouffé tout cru.
Tout à fait.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Georges et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap d'emblée sur Goma, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Goma, une ville d'environ 1 million d'habitants, bordée par le lac Kivu, l'un des plus grands réservoirs d'eau au monde et où il pleut abondamment. Pourtant, la majorité de la population est dépourvue du précieux liquide. Les explications nécessaires de notre correspondant Primo Pascal Rodaigua.
Chaque jour, les habitants de Goma se dirigent vers le lac Kivu avec des bidons de 20 litres pour puiser de l'eau. Les travailleurs et les élèves sont régulièrement en retard au travail ou à l'école par manque d'eau pour se laver.
Il n'y a pas de l'eau dans tout Goma. Si tu tournes ton regard vers la plage du peuple, tu vas voir comment tout le monde est là en train de puiser de l'eau. Les enfants souffrent. Tout le monde vient ici. Nous n'avons pas de l'eau. Les enfants doivent se lever tôt le matin pour venir chercher de l'eau. Nous souffrons.
Pendant la saison 7, au mois de juillet et août, la maladie dite des mains sales, le choléra, est aussi au rendez-vous. Quelques cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Karisimbi. Marie Shematsi Baeni est le porte-parole du gouvernement provincial.
90 cas sont déjà confirmés et 3 décès ont été enregistrés au sein de la population avant la prise en charge médicale. Toutefois, les dispositions sont prises pour stopper la propagation de cette endémie. La population est invitée à prendre des attitudes préventives en matière d'hygiène et assainissement en évitant surtout de consommer l'eau non chlorée.
Le directeur de la régie des eaux au Nord Kivu, Deogracias Kabiona Kizibisha, a fait un horaire de ravitaillement d'eau pendant quelques heures par semaine dans chaque quartier.
Comme on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment, on a opté pour un horaire de délestage, c'est-à-dire on fait les manipulations de vannes pour permettre à ce que les gens puissent avoir de l'eau, c'est-à-dire peu d'eau pour tous. En d'autres termes, le respect de l'horaire d'alimentation, l'horaire qui est fonction de délestage. Et les deux paramètres font qu'aujourd'hui, dans la partie ouest de la ville, il y a maintenant de l'eau potable à la population. Et la partie est de la ville, il y a aussi l'horaire, il y a un horaire aussi pour la partie est.
Pour résoudre définitivement cette pénurie d'eau dans la ville de Goma, il faut avoir de l'énergie suffisante pour faciliter le pompage de cette denrée rare dans le lac Kivu. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Direction Sénégal, où les résultats du baccalauréat sont jugés catastrophiques par des parents frustrés qui ont dépensé gros pour les études de leurs enfants. Mais décevant également pour les élèves et enseignants qui ont tout donné, le gouvernement est montré du doigt, accusé de sacrifier les étudiants pour désengorger les universités. De Dakar, notre correspondante Zenaba Sedouba.
Au lycée Limamoulaye de Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar, le président du jury 230 donne les noms des admissibles.
Maïmouna Diallo, passable. Nogoy Diagne, mention passable.
Crise et larmes de détresse retentissent à chaque fois que le nom d'un candidat est sauté. Pour les admis d'office, c'est une joie incommensurable.
Mention passable.
À Dakar, les résultats ne sont pas fameux. Ils sont jugés catastrophiques. Le taux d'admis faible.
Je m'appelle Fousseyou Nouboy. J'ai fait office de coordinateur des jurés. Les résultats ne sont pas très, très, très fameux. Cette année, au premier tour, pour le bac général, on n'est qu'à 18,55%.
Chacun cherche la raison de son naufrage scolaire. Anta Diop et sa camarade de classe recalée n'arrivent toujours pas à avaler cette pilule qui tranche la gorge. La colère contenue est pourtant perceptible dans leur voix.
Je ne me suis pas sentie à l'aise quand je le faisais. C'était mon LV1 et je savais que ça ne va pas marcher. Le COF, c'était 6. Et lors des épreuves en oral, aussi, je ne me sentais pas bien. Je savais que ça n'allait pas marcher.
Peut-être que cette année, il n'y a pas eu de perturbation. Bon, ils ont cru que les élèves ont assez appris, alors les épreuves doivent être difficiles.
Correction, ça a été mauvais. On a donné des 7 et des 6. Tous les élèves ont la même note.
Ce parent d'élève venu accompagner sa fille est dévasté. Après tant d'efforts, sa fille n'a pas réussi son bac. Il indexe l'État. Surtout le système éducatif.
Il faudra voir une question de quota. Parce qu'actuellement, on sait que les universités ont un problème d'accueil des nouveaux bacheliers, même des anciens. Mais également, les enseignants aussi, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils font le nécessaire? Cette réussite soit totale.
Abou Sow et Alfoussine Diouf sont respectivement professeurs de français et professeurs de géographie au lycée Lima Moulay. De leur avis, c'est le niveau des élèves qui est médiocre.
Les élèves aiment maintenant tricher. Ils aiment la facilité. Deuxième aspect aussi, les parents... plus ou moins ont démissionné.
Le premier, c'est les perturbations qu'on a enregistrées au cours de l'année scolaire. Le deuxième, nous constatons une baisse du niveau général des élèves chaque année. Le troisième, c'est aussi la baisse du niveau des enseignants. Ça, comme il faut le reconnaître.
Les statistiques officielles ne sont pas encore publiées par l'Office du Bac. Mais tous les acteurs sont d'avis que les résultats du Bac cette année sont en deçà de la moyenne. Et ils urgent de convoquer les assises pour une bonne qualité de l'éducation. Djenna Basseidouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Polémique au Burkina Faso, autour des récents commentaires de l'ambassadeur américain à Ouagadougou sur la situation sociopolitique burkinabé, notamment à propos de la question de l'alternance. Le point avec notre correspondant Zoumana Wonogo.
À la veille de l'Independence Day, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Tuli Nambo Mushengi, appréciant la situation politique nationale, disait ceci.
Notre avis est que un pays se retrouve renforcé et que les gens montrent du respect pour leur nation et leur gouvernement lorsque le processus constitutionnel est bien exécuté et défendu par ce gouvernement. Pour être réussi, la construction d'une démocratie forte exige des institutions fortes.
L'opposition estime que l'ambassadeur américain a épousé ses idées anti-modification de la Constitution. On écoute Maître Benevende Sankara.
C'est en toute amitié que l'ambassadeur des États-Unis rappelle au Burkinabé qu'il est de notre devoir d'oser inventer l'avenir comme quelqu'un l'avait dit, c'est-à-dire oser le risque du changement. C'est vrai que certains ne se retrouvent pas dans ce discours. Aujourd'hui, rappeler que la limitation des mandats est un tremplin de l'alternance, ça ne plaît pas au parti au pouvoir.
Du côté du parti au pouvoir, l'interprétation est tout autre. Suivant Achille Tapsoba, le porte-parole du CDP, le parti au pouvoir.
Le fait que le président Obama dise qu'il faut à l'Afrique des grandes institutions et non pas des grands hommes ne contredit pas le fait que, même aux États-Unis, les grandes institutions ont été installées par des grands hommes. Ce sont des individus historiques qui font des grandes réalisations et qui sont retenus par l'histoire de l'humanité. Donc l'Afrique est à un niveau où il faut des grands hommes, comme le président Blaise Compaoré, pour instaurer la démocratie.
Notre confrère Samuel Somda, du journal Le Faso.net, s'est fendu d'un éditorial mettant en balance le sommet États-Unis-Afrique et ce que le président Barack Obama pourra dire au président invité concernant les envies ou les velléités de modifications constitutionnelles. Suivons Samuel Somda.
Sur certaines velléités, les États-Unis ont été clairs sur cette position-là. Jamais ils ne cautionneront les modifications de constitution. C'est l'occasion d'interpeller une fois de plus ces différents présidents pour leur faire comprendre effectivement que la modification de la constitution, c'est une règle qu'il faudra éviter quand, si tant est qu'on veut que la démocratie fonctionne sur de bons rails.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
En Guinée, l'Union africaine a transféré à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le programme d'aménagement intégré du massif du Fouta Djallon. Le Fouta Djallon, un massif montagneux surnommé le Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il fournit de l'eau à la Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone, outre la Guinée bien évidemment. À Conakry, nous retrouvons notre correspondant Zakaria Camara.
Il s'agit de réhabiliter le massif du Fouta Djallon situé au centre du pays. Désormais, c'est la CEDEAO qui aura la responsabilité de l'aménagement de cet espace qui offre ses richesses naturelles à la sous-région. Lapoudé Marc Atuga, commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO.
La réhabilitation du Fouta va d'abord par la réhabilitation des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'il faut régénérer le couvert, il faut faire tout pour faire régénérer le couvert, replanter des arbres et amener les gens à exploiter de façon plus rationnelle les ressources qui existent. Si on ne réhabilite pas le Fouta Djallon et les ressources naturelles qui vont avec, à terme, vraiment, on va créer des problèmes sérieux aux populations riveraines et à beaucoup d'autres populations de la sous-région.
Le Fouta Djallon est un massif montagneux, une source de plusieurs cours d'eau qui arrose 8 pays africains, d'où l'implication de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Kabiné Komara, au commissaire de l'OMVS.
Nous, OMVS, nous sommes prêts à accompagner ce processus, mais également nous sommes extrêmement désireux de contribuer à la conservation des ressources en eau du Fouta Djallon par la création d'un observatoire que nous souhaiterons qu'il soit logé à l'abbé dans des installations que l'OMS est prête à renouveler, à réhabiliter entièrement et mettre à disposition de cet observatoire international qui fera de la Guinée le siège à partir duquel le savoir va se disséminer en termes écologiques, en termes environnementaux.
Après le transfert du programme, la CEDEAO devra convaincre les bailleurs de fonds pour le financement des activités d'aménagement et de mise en valeur du massif du Fouta Djallon qui souffre d'une dégradation du fait des activités humaines. Elhaj Bandian Doumbouya, chef de cabinet du ministère guinéen de l'énergie.
Au cours de ces dernières décennies, un certain nombre de menaces se sont conjuguées pour mettre en danger les ressources naturelles, contribuant ainsi à en diminuer la valeur comme source d'eau, de biodiversité et de potentiel bioproductif de l'environnement.
Les délégations présentes à Conakry ont insisté sur la réhabilitation du Fouta Djallon afin de valoriser ses richesses au profit de la sous-région. Le fleuve Sénégal, par exemple, nourrit 4 millions d'habitants, permet de fournir 260 MW d'électricité qui interconnecte le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Les brèves sportives à présent, nous retrouvons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Jacques.
Eh bien, accueil de héros hier pour les champions du monde à Berlin.
Oui, des centaines de milliers de fans ont acclamé mardi à Berlin les héros de la National Mannschaft qui ont remporté au Brésil le 4e titre de champion du monde pour l'Allemagne. Nous sommes tous champions du monde, a lancé le sélectionneur Joachim Löw depuis une grande estrade installée à la porte de Brandenburg face à une marée humaine qui a hurlé sa joie dans un grand moment de communion pour fêter le premier titre mondial depuis la réunification du pays en 1990. Le capitaine de l'équipe Philippe Lam a brandi les trophées de la Coupe du Monde devant la foule en délire. Plus de 250 000 personnes, certains ayant passé la nuit sur place pour être sûrs d'être bien placés, étaient rassemblés dans l'aire réservée aux supporters le long de l'avenue du 17 juin, longue de 1,2 km en face du célèbre monument berlinois.
Mondial encore, le feuilleton du Ballon d'Or n'est pas prêt de terminer.
Oui, après Sepp Blatter qui dit qu'il n'a pas compris le choix de Lionel Messi, c'est au tour de Diego Maradona de parler de coups de marketing orchestrés par Adidas, partenaire du trophée. Messi, je lui donnerais le ciel si je le pouvais, mais ce n'est pas juste lorsque quelqu'un remporte un prix qu'il n'aurait pas dû gagner. Simplement à cause d'un plan marketing, a déploré Maradona à la télévision argentine.
Le mondial est fini donc et les étrangers repartent satisfaits chez eux.
La majorité des étrangers qui se sont rendus au Brésil pour le mondial 2014 ont été séduits par l'organisation et l'hospitalité des Brésiliens tout en se plaignant des prix élevés selon une étude publiée ce mardi. L'organisation du mondial a été très bonne selon 83% des étrangers consultés pour cette étude effectuée par l'Institut Datafola, cité par l'agence France Presse. Seuls 3% ont jugé l'organisation très mauvaise et 12% l'ont trouvée moyenne.
Et triste nouvelle, la première championne olympique noire est décédée.
Oui, il s'agit de l'américaine Alice Cushman Davis, couronnée en saut en hauteur aux Jeux de Londres en 1948. Elle est décédée à l'âge de 90 ans des suites d'une attaque cérébrale en Géorgie où elle était née et avait été exposée à la ségrégation raciale. Championne des États-Unis du saut en hauteur dès l'âge de 16 ans, elle a remporté 25 titres nationaux tout au long de sa carrière, la plupart dans cette discipline, mais aussi en sprint sur 100 mètres en 1942, 1945, et 1946. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports.
Merci Bagassi. L'heure de retrouver Roger Muntou pour la tranche musicale. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Ce matin, nous écoutons la chanson Latch, qui est le premier single issu de l'album Zero du duo britannique de musique électronique Disclosure. Il est chanté par Sam Smith.
Sam Smith s'est fait connaître grâce à un duo avec Naughty Boy sur le titre La La La.
Oui, Jacques, et Sam est la sensation britannique du moment. Son premier album, In the Lonely Hour, est sorti récemment. Et ça marche très bien. Hein. La question ici, Jacques, c'est de savoir qui a motivé son écriture. Qui le motive, lui, à écrire de belles chansons comme ça? Écoute, Sam a répondu sur Twitter. Je n'ai jamais eu de vraies relations. Je n'ai connu que des histoires d'amour à sens unique où les gens n'aimaient pas en retour. Je crois que je suis un peu attiré par ce genre d'histoire. Et ça marche pour lui.
Sam Smith, Latch, merci Roger.
De rien Jacques, salutations à nos auditeurs de Djibouti.
Voilà, rendez-vous quotidien avec Roger Muntou dans RM Show à 20h10. Voilà, avant de clore le monde aujourd'hui, on rappelle des titres avec Georges Léonard Sagnou.
Je voudrais dire que Latch, c'est un morceau qu'adore particulièrement notre ingénieur de son, Johnny Lasson, ce matin. Voilà donc, on revient aux nouvelles. Au Burkina Faso, une explosion s'est produite dans la soirée d'hier à Ouagadougou, la capitale. Le gouvernement fait état de plusieurs morts et une quarantaine de blessés. Le dialogue intermalien s'ouvre aujourd'hui à Alger en vue de trouver un accord de paix entre le gouvernement de Bamako et les groupes armés du Nord Mali, région où la situation demeure très tendue au vu des derniers affrontements en date. Mais signe de bonne volonté hier entre les belligérants à travers un échange de prisonniers. Un membre présumé du groupe islamiste armé Boko Haram, nous sommes au Nigeria, Aminu Shadik Ogouché, recherché pour son rôle dans les récents attentats
attentat à la bombe à Abuja a été extradé du Soudan vers le Nigeria. Israël a bombardé dans la nuit de mardi à mercredi les domiciles de plusieurs responsables du Hamas. Nous sommes dans la bande de Gaza. Conformément à sa promesse d'intensifier ses raids après le rejet d'une trêve par le mouvement islamiste. Alors Jacques, voilà tout ce qu'on pouvait dire ce matin.
Merci Georges. Georges Léonard Sagnot qui était également à la réalisation. John Ellison pour la partie technique. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée sur la VOA. À très bientôt. Take care.